Primavera, la santé pour tous avec Vieux Goliath, Maman Petoto, Finke et Faro. Vivravera, pour découvrir les questions de santé de la reproduction, la promotion de la femme, des violences domestiques et d'autres thèmes tout en se divertissant. Vivravera, le feuilleton de Population Media Center sur Radio Capi, le mardi soir et les jeudis soirs à 21h, le dimanche à 11h40 et à 19h40.
L'énergie est un besoin indispensable pour une communauté. Celle-ci en a besoin pour exercer différentes activités. On a besoin de l'électricité. Cependant, il existe d'autres formes d'énergie, telles que l'énergie solaire, hydraulique et éolienne, qui sont moins utilisées dans notre pays. Alors, quels sont les avantages que ces types d'énergie offrent? On en parle aujourd'hui avec Jean-Dédieu Miningou. Il est expert en environnement. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jolie.
Monsieur Jean des Dieux, c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable?
Oui, merci Jody, vous venez de dire déjà l'essentiel de tout ce qu'on allait dire tout au long de notre émission. Donc l'énergie, comme vous venez de le dire, est nécessaire pour le développement d'une communauté. Donc aucune société à travers le monde ne peut se développer et sans toutefois prendre de mesures nécessaires d'accessibilité à l'énergie. Donc l'énergie, au même titre que l'eau, l'éducation, la santé, un besoin fondamental d'un individu. Aujourd'hui, il est clairement admis qu'on ne peut pas parler de la sécurité alimentaire sans la sécurité énergétique. C'est pourquoi vous êtes en train de voir aujourd'hui, si parmi les causes qui font que les gens en République démocratique du Congo souffrent de la faim, c'est bien sûr il y a d'autres paramètres, mais il y a entre autres la problématique d'accès à l'énergie pour des millions de Congolais. On n'a que 6 à 9% des Congolais qui ont accès à l'électricité. Donc il ne faut pas dans
6 à 9% seulement.
6 à 9%, en dépit des potentialités que nous avions, vous avez parlé d'énergie solaire, d'énergie hydraulique, et les éoliennes, la biomasse qu'on pouvait développer pour permettre à de nombreuses communautés locales, à des populations congolaises d'avoir accès à l'énergie. Donc on a autour, je sais plus, 9% de personnes.
Donc il y a un grand déficit. Hein.
Il y a un très grand déficit d'accès à l'énergie, à l'électricité en République démocratique du Congo. Et comme l'accessibilité à l'énergie pose suffisamment de problèmes, je vous dis, il n'y a pas plus de 35% de Congolais qui ont accès à l'eau potable. Et c'est pourquoi vous voyez que notre système sanitaire est complètement délabré, il est totalement archaïque, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas assurer des soins de qualité à la population s'il n'y a pas de l'énergie, s'il n'y a pas d'électricité. Donc ce qui fait que
on a appris même qu'il y a des hôpitaux dans ces pays où on opère les gens avec la
avec des lampes, hein.
Pas même avec des lampes, mais des bougies.
On cherche quelques bambous là et puis on allume et puis pour que les médecins puissent voir. Quand vous allez dans l'arrière-pays, où est-ce que vous allez trouver des bougies et qui viendra vendre ces bougies?
Ça pose problème.
Donc je dis, c'est pourquoi vous voyez que même l'industrialisation du pays pose problème. En dépit des ressources, nous avons les diamants, nous avons le cuivre, nous avons une agriculture qui peut amener le pays vers le développement, mais le pays n'arrive pas à s'industrialiser parce que l'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie pose problème. Donc, comme vous venez de dire, l'énergie renouvelable, par définition, ce sont les énergies dont les sources sont presque inépuisables. Et parmi ces sources d'énergie, vous l'avez déjà dit, vous avez les énergies éoliennes, vous avez les énergies solaires, vous avez l'hydraulique et puis la biomasse. Et quand on voit toutes ces formes d'énergie, la République démocratique du Congo peut développer ces formes d'énergie pour entraîner le développement socio-économique de la République démocratique du Congo.
Vous avez dit l'énergie solaire,
ouais.
L'énergie
éolienne. Nous avons parlé de l'hydroélectricité, mais également la biomasse.
Ouais,
qui peuvent être utilisés vraiment pour l'approvisionnement en électricité ou en énergie pour de nombreuses communautés et dans notre pays.
Voilà, maintenant parlons de chaque forme d'énergie. Commençons avec l'énergie solaire. Comment utiliser cette énergie pour fournir de l'électricité?
Oui, Jody, et s'agissant de l'énergie solaire, je crois qu'on sera beaucoup plus simple. Et tout le monde connaît ce qu'on appelle le panneau solaire. Aujourd'hui, je crois qu'avec des panneaux, on peut y arriver à porter de l'électricité, on peut y arriver à amener de l'eau au niveau du village avec les panneaux. Nous avions travaillé dans un projet dans la province du Bandundu à l'hôpital de Mokamo, où nous avions amené de l'électricité à l'hôpital, nous avions amené de l'eau jusqu'au village avec des panneaux solaires.
Grâce aux panneaux solaires.
Et je dis, vous avez dit quels sont les avantages. Vous voyez vous-même les avantages sur le plan économique. Si vous utilisez le groupe électrogène, vous devez chaque fois acheter du carburant, vous devez chaque fois acheter du mazout.
Il semble que ça pollue aussi l'environnement. Les groupes électrogènes polluent quelque part l'environnement.
Bien sûr, les groupes électrogènes contribuent
à la pollution.
À la pollution, parce que vous utilisez soit les mazout, vous utilisez l'essence. Il est connu qu'un litre de mazout renvoie dans l'atmosphère pas moins de 2,985 kg de CO2 dans l'atmosphère. Si vous devez en consommer 10, 15 litres, mais vous devez calculer, vous êtes autour de 30, 40 kg de CO2 renvoyés dans l'atmosphère. S'il y a 3, 4, 5, 10, 20 ménages, vous voyez que cette activité va contribuer beaucoup au dérèglement du climat et c'est tout ce que tout le monde est en train de condamner. Donc, les solaires, c'est une forme d'énergie qui peut être utilisée en République démocratique du Congo parce que nous avons le soleil partout en RDC. Donc, si on pouvait installer des champs photovoltaïques à travers les universités, à travers les hôpitaux, on peut arriver à permettre à ces structures de pouvoir fonctionner normalement. Donc, nous avons fait un exercice, par exemple, à l'université du Kwit, où on avait vu, parce que vous parlez des avantages de ces formes d'énergie, on avait vu que l'université dépensait énormément beaucoup d'argent.
Pour l'énergie.
Pour l'énergie. C'est l'aimant pour l'énergie. Il faut acheter du carburant. Il faut réparer le groupe. Et le groupe électrogène devait fonctionner de 9h jusqu'à 18h. Ce n'est pas moins de 15 à 20 litres qui sont... Chaque jour, aujourd'hui. L'université n'est pas une entreprise qui produit des bénéfices, etc. Mais c'est un service social. Alors, si on pouvait remplacer le groupe électrogène par des panneaux solaires, l'université pouvait réaliser des économies et investir ça pour équiper les laboratoires et autres choses. Donc, l'énergie solaire... C'est une forme qui est à notre portée.
Comment fonctionnent ces panneaux dont vous parlez?
Oui, aujourd'hui, quand vous voyez les panneaux, le panneau est constitué de ce qu'on appelle les cellules photovoltaïques. Donc, les cellules photovoltaïques, ce sont des dispositifs semi-conducteurs à base de silicium. Et ce sont ces cellules photovoltaïques qui permettent de capter l'énergie solaire et les transformer en courant. Donc, c'est clair que tout courant qui sort du panneau, c'est un courant continu. Pour le transformer en courant alternatif, on installe ce qu'on appelle les ondulaires. Donc, c'est comme ça, de façon très brève, je dis que les panneaux... Et la puissance d'un panneau solaire est fonction du nombre de cellules photovoltaïques. Quand vous voyez les panneaux, je dis, c'est comme vous avez des rectangles ou des carrés qui sont là. C'est ça qu'on appelle cellules photovoltaïques. D'accord. Donc, c'est une forme d'énergie qui peut être utilisée pour permettre...
Avec les panneaux, on peut éclairer une maison, on peut faire fonctionner aussi des machines, on peut faire beaucoup de choses avec.
Oui, je vous ai dit le cas de l'hôpital de Mokamo. On ramène pas moins de 15 mètres cubes d'eau par jour avec des panneaux solaires.
Et ça marche bien?
Ça marche très bien. Vous n'avez pas de carburant, vous ne pouvez pas dire non, on va aller acheter du carburant à Kikwit, à Kinshasa. Non, vous êtes de façon... indépendante en train d'assurer votre sécurité énergétique. Donc, il appartient bien sûr à des acteurs de la société civile, il appartient à l'État de pouvoir mettre des mécanismes nécessaires pour permettre à ce que ces formes d'énergie puissent être utilisées pour le développement socio-économique.
Mais le problème, c'est que ces panneaux, le coût n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est, généralement, ces panneaux coûtent un peu plus cher.
Oui, je dis, ça coûte un peu plus cher. Si vous avez un champ photovoltaïque, et la durée de vie, c'est au moins 25 ans.
Donc, 25 ans.
Oui, c'est au moins 25 ans. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est une forme d'énergie qu'on peut développer.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour baisser les coûts afin de permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à ces panneaux?
Très bien, une très belle question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser les coûts? Il faut voir. C'est au niveau de la douane où les choses posent suffisamment de problèmes. Si l'État dit qu'il veut développer et l'énergie solaire en République démocratique, si l'État prend des dispositions qu'il veut permettre à des millions de Congolais...
Accorder des exonérations.
Bien sûr, c'est ça qu'il fallait faire. Mais je sais que dans une situation extrêmement compliquée comme celle-ci, il faut beaucoup de cérémonies, il faut beaucoup de discussions par rapport à tout ça.
Voilà. Et la deuxième forme d'énergie, vous avez parlé de l'énergie éolienne. Oui. Parlez-nous-en.
Oui, l'énergie éolienne, on sait bien que les vents, c'est une forme d'énergie qui a été utilisée depuis très longtemps. Et je crois que beaucoup de Congolais ont déjà vu ce qu'on appelle un panneau solaire. Vous avez des pales qui sont là. Et avec le mouvement des vents, les pales les pales peuvent tourner. Avec le tourner, vous avez un générateur.
Comment vous appelez ça? Pales?
Les pales, oui. C'est des trucs là qu'on met là, quand le vent vient, il tourne sur les pales et les pales commencent à tourner. Vous avez un générateur qui transforme l'énergie cinétique du vent en électricité. Donc, avec ça, on peut arriver et il y a des éléments importants lorsqu'on veut installer un panneau solaire dans un village qu'il faut tenir. C'est d'abord la direction du vent et sa vitesse.
Ça s'appelle pale solaire, parce que vous parlez du panneau solaire.
Je parle des éoliennes. pour les éoliennes. Donc, lorsqu'on veut installer une éolienne dans un village, vous avez des éléments importants qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, je vous dis, c'est la direction du vent. Et le deuxième élément, c'est sa vitesse. Là où la vitesse du vent n'est pas très importante, ça ne sert à rien de pouvoir installer une éolienne. Mais il fallait installer une éolienne là où la vitesse du vent est au moins au minimum de 10 km par heure. Et vous avez trois sites importants pour le développement de l'énergie éolienne en République démocratique du Congo. Vous avez la côte au niveau de Moanda, vous avez le plateau de Bateka à Kinshasa, et vous avez également le plateau de Kundulungu au Katanga. Vous avez beaucoup de villes en République démocratique du Congo qui se trouvent finalement en forêt. Donc je crois que là, ça ne sert à rien de penser à développer ce qu'on appelle l'énergie éolienne.
Il y a des études qui ont été faites déjà au préalable pour déterminer ces endroits-là.
Oui, bien sûr.
Où ça peut bien marcher.
Oui, bien sûr. En République, on a trois sites très importants.
Trois sites seulement.
Vous êtes au plateau de Bateke, c'est très bien pouvoir installer les éoliennes parce que la vitesse du vent est très importante.
Oui.
Vous êtes au niveau de la côte, au niveau de Moanda, vous êtes au plateau de Kundulungu. Oui, Bateke et Kundulungu
au Katanga.
Très bien. Au Katanga, vous pouvez développer l'énergie éolienne, mais il ne faut pas penser à développer les éoliennes dans la ville, par exemple, de Mbandaka, dans la ville de Kupit, parce que ce sont des villes qui sont entourées de rideaux forestiers, donc là, la vitesse du vent est très très faible.
Et très très faible. Et nous parlons aujourd'hui des énergies renouvelables, qu'est-ce que sont les avantages? Gaylor nous appelle de Lumbashi, et Gérard et Taïchiro, vous voulez également participer, appelez-nous 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Bien, nous allons accueillir à présent Gaylor de Lumbashi. Gaylor, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Voilà, j'ai deux questions à poser à l'invité. La première est celle de savoir quelles sont les conséquences néfastes peut produire l'énergie solaire. La seconde est celle de savoir pourquoi l'invité n'a pas cité l'énergie linéaire. Je ne sais pas si elle existe.
L'énergie comment? Linéaire?
Oui,
C'est quelle forme d'énergie, Gaylor?
Je ne sais pas, l'invité peut m'expliquer si ça existe.
Ah, vous voulez savoir si l'énergie linéaire existe. D'accord. Merci. Gérard, vous êtes à Iziro. Bonjour.
Oui, bonjour, cher journaliste.
On vous écoute.
Merci, bon. Ma question est de savoir parce que nous sommes à Iziro, un millier à prise totale de l'énergie. Et si on prend les milliers environnants de notre cité, n'en parlons pas. Et je voulais tout justement demander à l'invité si quelle technique lui peut nous apprendre pour que à Isuro qu'on puisse procurer des différentes énergies dont il vient de numérer là. Merci.
Bien, merci. Et Rachel nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Allô, bonjour, cher invité.
Bonjour.
J'ai des petites questions.
Oui.
La première question, je n'ai pas bien compris le sujet. Alors, l'énergie renouvelable, qu'est-ce qu'on peut attendre par là? Parce que moi, je n'ai pas bien compris. Et la deuxième question, je me heureux de savoir si c'est quoi l'avantage alors de l'énergie renouvelable.
Bien, merci. Jean Didier Minemo.
Oui, on commence par Rachel qui demande les avantages des énergies renouvelables. Donc, avant de parler des avantages, je souhaite qu'on commence déjà parce qu'il a souhaité aussi qu'on puisse
savoir
c'est quoi une énergie renouvelable. Donc, par définition, une énergie renouvelable, comme nous l'avions dit au début de l'émission, ce sont des énergies dont les sources sont presque inépuisables. Et parmi ces énergies, quand vous voyez par exemple l'eau, la source elle est presque inépuisable. Quand vous voyez les vents, la source elle est presque inépuisable. Quand vous voyez le soleil, bien sûr, les géologues nous disent qu'après des millions d'années, le soleil pourra disparaître. Mais pour l'instant, il est encore là.
Il est encore là.
il est encore là. On peut supposer que c'est une source presque inépuisable.
Oui.
Et quand vous voyez la biomasse, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme matière organique, et ça peut être considéré comme une source inépuisable, bien sûr, à condition que les forêts et tout ça, ça soit très bien géré. Donc, bref, je reviens pour dire qu'une énergie renouvelable ou les énergies renouvelables, ce sont des énergies dont les sources sont presque inépuisables. Là, nous avons parlé du soleil, du vent, de l'eau et de la biomasse. Alors, quels sont les avantages, comme Rachel vient de poser des questions, que représentent les énergies renouvelables? Nous l'avions dit, les énergies renouvelables présentent des avantages socio-économiques, mais également des avantages environnementaux. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les changements climatiques. Beaucoup d'énergie qu'on utilise en République démocratique du Congo, ce sont des énergies fossiles, surtout dans les secteurs des transports. Les véhicules utilisent les mazotes, l'essence, et toutes ces énergies renvoient dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2. Mais si nous devons remplacer ces énergies par ce que nous appelons les énergies renouvelables, telles que le biocarburant, mais nous réduisons notre empreinte sur l'environnement, nous réduisons notre empreinte écologique. Donc ça présente un avantage en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes de pollution de l'environnement.
Alors, est-ce que l'énergie linéaire, est-ce qu'il existe une forme d'énergie qu'on appelle énergie linéaire?
Est-ce que ne parle-t-il pas de ce qu'on appelle l'énergie nucléaire? Parce que l'énergie nucléaire fait partie de ce qu'on appelle également les énergies propres. Les énergies propres, je dis, ce sont les énergies qui émettent moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais l'énergie nucléaire ne fait pas partie de ce que nous pouvons appeler énergie renouvelable, parce que les sources pour produire l'énergie nucléaire, qui est l'uranium n'est pas une matière renouvelable. C'est une matière non renouvelable. C'est pourquoi l'énergie nucléaire ne fait pas partie des énergies renouvelables, mais fait partie de ce qu'on appelle les énergies propres.
D'accord. Bien, et Gaylor a posé une autre question, celle de savoir, est-ce qu'il y a des conséquences néfastes lorsqu'on utilise l'énergie solaire?
Oui, je dis, les énergies, toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Lorsqu'aujourd'hui on va installer un champ photovoltaïque dans un village ou dans une ville, il y aura bien sûr un certain nombre d'impacts sur l'environnement.
Lesquels?
Vous avez par exemple les accumulateurs que vous devez installer. Vous avez des batteries pour garder l'énergie, pour pouvoir utiliser. Parce que les panneaux captent l'énergie la journée, la nuit, il faut que les accumulateurs fonctionnent. Mais après un certain, après 6 mois, il faut changer de l'acide, il faut tout ça, il faut jeter quelque part. Et tout ça, ça a de l'impact sur l'environnement. Donc, je peux dire
mais
que...
Mais ça pollue moins l'environnement que les autres, les énergies fossiles.
Exact. C'est pourquoi nous les appelons les énergies vertes. Elles ont moins d'impact sur l'environnement par rapport aux énergies fossiles. Mais ça ne veut pas dire que les énergies vertes, ça ne veut pas dire que les énergies renouvelables n'ont pas d'impact sur l'environnement. Ça sera, à mon avis, trop exagéré.
Voilà. Et Gérard, qui nous a appelé depuis Issiro, il dit dans son milieu, il y a des problèmes d'électricité. Comment est-ce que Issiro peut utiliser ces formes d'énergie renouvelable?
Oui, je crois qu'on venait de le dire. Et la République démocratique du Congo a des potentiels très importants en énergie renouvelable. On peut installer des champs photovoltaïques à Issiro pour permettre à la population d'avoir accès à l'énergie. On peut développer également la biomasse, à partir des biocarburants, à partir et d'autres matières, on peut arriver à produire de l'électricité. Mais également, je pense qu'on peut trouver également, je ne connais pas très bien la région, mais on peut arriver également à développer l'hydroélectricité dans la région. Donc la République démocratique du Congo possède toutes ses potentiels. C'est pourquoi on ne se développe pas parce qu'on a les diamants, on ne se développe pas parce qu'on a l'hydroélectricité, on a des cours d'eau, on a la terre. Non, on se développe. Si vous avez des cadres, si vous avez des structures, si vous avez des institutions qui militent pour le bien-être collectif et pour le développement de la société. C'est ça le développement. On ne se développe jamais dans la durée parce que vous avez la forêt, etc. Non, on se développe avec des institutions de responsabilité, avec des institutions qui amènent le pays vers le développement social véritable.
Alors, parlons maintenant de l'énergie hydraulique.
Oui, l'énergie hydraulique, ça tout le monde connaît en République démocratique du Congo. Nous avons le plus grand barrage ici en Afrique.
Hydraulique,
oui. Oui, c'est le barrage d'Inga. Ici, on utilise l'eau qui fait tourner la turbine. La turbine fait tourner l'alternateur qui transforme l'énergie mécanique de l'eau en électricité. Et ça, c'est possible. C'est la forme d'énergie qui peut être
utilisée ici.
Qui est plus, non, attention, je dis, qui est plus utilisée dans la ville et pas au village, hein. Okay. Au village, ils n'utilisent pas les courants d'Inga, il n'y en a pas. Quand vous sortez d'ailleurs dans les zones périphériques des grandes villes et de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de courant. D'ailleurs, même ici à Kinshasa, aller même en centre-ville, même dans
beaucoup d'endroits, il
y a des poches noires, il y a des zones qui sont complètement isolées du système électrique de la ville. Donc, cette forme d'énergie qui pouvait être développée en République démocratique du Congo et amener finalement beaucoup d'argent pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Je dis, mais l'hydroélectricité n'a d'avenir en République démocratique du Congo que si nous arrivons à très bien gérer ce qu'on appelle les bassins versants des rivières et des cours d'eau de la République démocratique du Congo. Donc si il n'y a pas une bonne gestion de tous ces bassins versants, eh bien, le lendemain, les choses ne seront plus ce que nous sommes en train de les voir aujourd'hui. Ça pourra être, les choses peuvent évoluer négativement.
Et comment bien gérer ces bassins versants?
Oui, je dis, quand on dit qu'il faut bien gérer les bassins versants, vous savez que l'eau qu'on retrouve au niveau des rivières, l'eau qu'on retrouve au niveau des cours d'eau, c'est pas l'eau qui tombe du paradis, et c'est l'eau qui se retrouve soit dans les nappes phréatiques, ou c'est l'eau qui vient par exemple des précipitations. Mmh. Alors si les nappes sont exposées, si les nappes ne sont pas très bien, si les forêts qui doivent jouer un rôle important en termes de gestion des eaux qui se trouvent au niveau du sol, on arrivera à tout ce que... Il faut voir en République démocratique du Congo comment ça se passe. Là où même la rivière a commencé, c'est ce qu'on appelle la source, mais les gens font le déboisement. Et lorsque vous faites le déboisement à ce niveau-là, je vous dis, vous êtes en train d'exposer la nappe, c'est-à-dire vous êtes en train de faire augmenter l'évaporation. L'eau qui s'est trouvée au niveau de la nappe peut s'évaporer, ou soit les eaux auront du mal à atteindre encore la nappe. Comme les nappes ne seront plus très bien approvisionnées en eau, et il faut s'attendre que la quantité d'eau au niveau de votre rivière, la quantité d'eau
va baisser.
Va absolument baisser.
Donc il y a un lien entre l'eau et les arbres. Et pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe entre, dans ces cas-là?
Oui, merci, Jody. C'est quoi que je venais de le dire? On évite souvent la déforestation à côté, surtout des sources. C'est parce que dans une région où vous avez la forêt, vous avez un couvert végétal qui est là. L'eau qui vient des précipitations qui tombent, après plusieurs jours ou plusieurs, ça dépend de la profondeur, cette eau peut arriver à atteindre la nappe. Mais si vous faites la déforestation, vous coupez tous les bois qui se trouvent là, c'est que le sol est exposé. Même s'il y a une pluie aujourd'hui, le lendemain, il y a une forte chaleur, les eaux ont du mal à atteindre les nappes. Les nappes ne sont plus bien approvisionnées en eau. Comme vous avez enlevé la végétation, vous avez enlevé la forêt, et finalement, toutes les eaux qui devraient atteindre les nappes se retrouvent finalement dans l'atmosphère. Et comme il est connu de tous que l'eau qui monte maintenant dans l'atmosphère n'a plus de chance de tomber dans la région. Cette eau peut aller tomber ailleurs avec le mouvement des nuages. Donc la forêt joue un rôle important pour maintenir les eaux au niveau à ce niveau. Donc je dis l'hydroélectricité peut être développée en République démocratique du Congo et ça sera vraiment...
Donc à part le barrage d'Inga, on peut utiliser aussi d'autres cours d'eau pour fournir de l'énergie hydraulique.
Bien sûr, vous avez le barrage de Katende que j'ai entendu, ça fait beaucoup, depuis que j'étais jeune, ça n'a jamais vu le jour. Il y a le barrage de Kakobola qui cuit, on en parle, on dépose les pierres le lendemain, telle personnalité passe.
Et c'est après
devenu,
il n'y a rien.
C'est devenu des carrières de pierres finalement. Et rien de concret de ces faits, finalement, pour être. Donc ce sont des formes d'énergie qui peuvent être développées pour amener le développement de la République démocratique du Congo.
D'accord. Joseph Mpoy nous appelle de Kalemi. Bonjour Joseph.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, comment ça va? Ouais, je voudrais apporter une petite précision sur ce que monsieur a dit.
Oui.
À propos de l'énergie éolienne.
Oui.
Alors, je voulais dire que ces machines-là sont des turbines. Quand il a parlé de balles, ce sont des turbines. Le type de fonctionnement, je crois qu'il doit être le même avec les centrales hydroélectriques. Sauf que dans les deux systèmes, l'un utilise l'eau et l'autre utilise l'air. C'est juste la précision que je voulais amener à l'émission.
Voilà, vous dites que les pales dont il a parlé sont des turbines.
Oui, donc les machines qu'on utilise pour les systèmes éoliens, ce sont des turbines éoliennes.
Voilà, Jean Desdieux.
Oui, jeudi, on dit la même chose. Hein. Donc, moi, je suis enseignant à l'université, donc on sait, je ne vais pas trop employer des termes techniques. Les pales sont comparables à ce qu'on appelle des turbines dans le cadre des centrales hydroélectriques. Parce qu'au niveau, des éoliennes, ce sont les pales qui permettent de faire tourner les générateurs qui se trouvent au niveau des mâts. Alors, au niveau d'une centrale hydroélectrique, vous avez la turbine. Mais la turbine dont l'eau tombe sur la turbine, c'est la turbine avec l'axe qui est relié au générateur qui permet de transformer l'énergie provenant de l'eau au niveau de la turbine pour transformer ça en énergie. Donc la turbine au niveau d'une éolienne, c'est ça qu'on appelle le pales.
D'accord. Donc vous dites la même chose. D'accord. Oui. Alors parlons maintenant de la biomasse. Vous avez parlé aussi de biomasse. Comment pouvez-vous nous parler en long et large de cette forme d'énergie?
Oui, je dis à ce qui concerne la biomasse ici que je voudrais parler de biocarburants et je voudrais parler également de la production de gaz tels que le gaz méthane qui peut être utilisé également pour la production de l'électricité. Et dans les biocarburants ici, je crois que le pays se trouve également très bien positionné. Nous pouvons produire du carburant et remplacer les mazouts ou l'essence, soit avec de l'alcool ou soit avec du biodiesel. Donc là, du côté biodiesel, vous avez par exemple des plantes comme les jatropha cuirassés, vous avez les palmiers à huile, vous avez tout ce qu'il y a comme oléagineuse. Et vous avez du côté plantes qui peuvent être utilisées pour la production d'alcool, vous avez la canne à sucre.
Donc avec l'huile des palmes, par exemple, on peut fabriquer du carburant.
Bien sûr. D'ailleurs, beaucoup de moteurs, quand vous arrivez vers l'Équateur, je crois avec CDI Boamanda, ils fabriquent déjà du biocarburant à partir d'huile de palme. Mais le problème de pouvoir utiliser des produits alimentaires, c'est que ça risque d'aggraver l'insécurité alimentaire dans un pays.
Mais il semble qu'en Afrique de l'Ouest, on utilise déjà cette forme d'énergie.
Oui, en Afrique de l'Ouest, vous avez les pays comme le Mali, bien sûr, qui est entré également dans beaucoup de problèmes ces derniers temps. Ils étaient déjà très avancés dans le cadre de la production de biocarburant à partir de la culture déjà trouvée. Il y avait des véhicules qui roulaient à partir du biocarburant. Donc aujourd'hui, avec tout ce que problème, mais sinon, l'Afrique de l'Ouest peut être très avancée par rapport à la République démocratique du Congo, bien sûr, aujourd'hui, il y a des potentialités pour pouvoir développer, mais il faut un cadre au niveau national. Oui. Et pour terminer par rapport à ça, comme on venait de parler de biocarburant, oui. En 2012, aujourd'hui, on avait mis en place l'avant-projet de loi portant réglementation de biocarburant en République démocratique du Congo. Je n'ai jamais su qu'est-ce que cette histoire est devenue. Est-ce que c'est dans les tiroirs ou il y en a où? Mais sinon, c'est un outil important qui pouvait attirer les investissements et qui pouvait faire en sorte que cette forme d'énergie soit réellement utilisée en République démocratique.
Ça permet de réduire l'utilisation des énergies fossiles.
Exact.
Qui polluent.
Qui polluent finalement l'environnement.
Exact. Antoine nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute, Antoine.
Oui, oui, j'ai voulu ça. J'ai voulu seulement comment implanter son panneau solaire et pour... faire travailler son panneau solaire, qu'est-ce qu'il faut pour utiliser son télévision ou un frigo.
D'accord. Jean de Dieu Minim.
Oui, je dis, l'installation d'un panneau dans un village implique...
Ou dans une maison, parce
ou
que
dans
lui,
une
il parle
maison.
De sa maison.
Okay, il parle de sa maison ou dans un village, dans une implique l'intervention d'un électricien. Il faut faire appel à une expertise qui est liée des gens qui connaissent comment faut-il installer. Mais dans l'installation des panneaux, ce qu'il faut éviter, je vous dis, je parle de façon brève, hein, mais il faut la présence, il faut l'implication d'un électricien. Il faut éviter qu'une partie de votre panneau, lorsqu'il fait jour, soit dans l'ombrage et l'autre côté soit éclairé. Donc il faut faire en sorte que...
Tout le panneau doit être exposé au rayon solaire.
Au rayon solaire, oui. Pour éviter que votre panneau puisse se chauffer. Mais actuellement, dans les panneaux qui sont fabriqués, on installe ce qu'on appelle les diodes bypass.
C'est
ou soit, si vous installez plusieurs panneaux en série, ce que nous appelons champ photovoltaïque, on installe également des diodes. Parce que si par malheur vous avez une feuille qui est tombée sur une partie de votre panneau, eh bien, si vous n'avez pas installé de diodes, les panneaux là risquent de se surchauffer et vous allez voir votre intensité suffisamment diminuer. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'installation de beaucoup de panneaux solaires, on préfère toujours installer ce qu'on appelle le diode bypass.
Et certains disent, pour mieux trouver d'abord la puissance du panneau, vous avez dit, il faut faire appel à un électricien qui va voir dans la maison quel type d'ampoule vous avez, les appareils électroménagers que vous avez à la maison, il va calculer la puissance et sur base de cela, il va déterminer la puissance du panneau acheté.
Ok, donc on n'achète pas un panneau parce qu'il faut l'acheter aujourd'hui. On achète un panneau, c'est pour faire fonctionner peut-être de quelques matériels ménagers que vous avez. Et là, il faut faire appel à l'électricien pour qu'il calcule quelle est la puissance pour votre congélateur, quelle est la puissance pour votre téléviseur. Vous allez utiliser tel matériel, la puissance totale sur quand. Et on installe. Une cellule photovoltaïque développe une tension de 0,5 à 0,6 volts. Donc la puissance d'un panneau, comme je l'ai dit, est fonction des cellules photovoltaïques. Donc il faut absolument faire attention avant d'installer ça. Il faut toujours se référer à un électricien qui doit vous aider pour que vous puissiez installer votre panneau. Et ça va créer une certaine indépendance énergétique chez vous. Si c'est très bien géré, vous avez 20, 25 à 35 ans d'électrification avec le panneau, vous n'avez pas de problème. Ah voilà, il y a ceci,
pas des coupures,
il y a des coupures.
Délestage. Jurès nous appelle de Kinshasa. Bonjour Jurès.
Oui, bonjour. Moi c'est Dialou du Toussong à Jurès. J'appelle la partie de Kinshasa. Merci beaucoup Radio Okapi pour cette émission. Je pense que l'émission a été faite pour rappeler aux autorités, à toute l'opinion. Je suis un technicien aussi, un électricien de formation. Je remercie aussi l'invité. L'invité doit, je ne sais pas si la question a été posée, l'invité doit rappeler à l'opinion les dangers dont la République démocratique du Congo est en train de courir. Les problèmes, c'est quoi? Je voulais un peu que l'invité dise aux autorités que les risques que le Congo est en train de courir en utilisant les véhicules, tous ces groupes, tous ces engins qui peuvent endommager la couche d'ozone. Alors, le problème le plus grave, c'est ceci. Il faut que l'autorité mette en place, comme l'invité a dit, le dossier doit être traité et puis être au moins mis en table, parce que nous avons un grand problème dans l'avenir. Même pas nous, nos enfants auront ces problèmes-là. On a d'abord le réchauffement climatique qui est là. Il y a des forêts qui sont en train d'être coupées. Il y a énormément de choses qui se passent sur l'air. Alors si nous ne faisons pas attention à cela, je pense que l'invité est très bien placé pour expliquer à l'opinion publique ces grands dangers que la République démocratique du Congo est en train de courir. Ma deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas, une explication claire de l'invité pour la barrage hydroélectrique de Inga? Inga produit énormément de mégawatts. Est-ce qu'il n'y a pas moyen vraiment que nous puissions seulement utiliser ces énergies-là pour amener vraiment un développement dans un pays? Parce que sans le courant, il n'y a pas de développement. À l'intérieur du pays, moi j'ai été là-bas, il y a les barrages de Mobaye-Bongo à l'Équateur, qui ne produit absolument rien. Il n'y a aucune usine qui fait que ces barrages-là puissent essayer un peu d'utiliser ces mégawatts et en fait de permettre toute la population d'avoir l'électricité à quelques kilomètres seulement de Guadeloupe. Vous n'allez pas avoir cette électricité.
D'accord.
Il n'y en aura pas.
Merci.
Vous allez encore plus loin,
oui.
150 kilomètres, 200 kilomètres, il n'y a même pas du courant. Donc si c'est noir, ça fait noir.
D'accord,
c'est vraiment
merci.
Grave pour notre pays, c'est pour cela. C'est un peu les petites préoccupations que j'avais. En tout cas, merci à l'invité.
Bien, merci Jean Didier.
Oui, merci à Jirès. Il a dit des choses quand même très intéressantes. Lorsqu'il dit, il revient pour dire qu'il n'y a pas de développement sans électricité ou sans énergie. Ça, c'est très clair. Hein?
Oui.
Même chez nous, au village, même là où il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire sans énergie, vous ne pouvez pas préparer. Hein? Vous ne pouvez pas préparer la nourriture. Donc l'énergie, même le bois, c'est une forme d'énergie. Donc il faut absolument... L'énergie est étroitement liée à la vie de la personne, à la vie humaine. Sans énergie, aujourd'hui, on n'existe pas. Alors, que faut-il faire pour le barrage hydroélectrique d'Inga? Ça produit quand même des mégawatts et des mégawatts. Et il faut quand même arriver à avoir. Moi, j'ai été partisan, j'ai discuté avec un ami qui est professeur à la faculté de Polytechnique, qui est ingénieur électricien. Et bon, moi, je ne suis pas partisan et de ceux qui pensent qu'il faut prendre du courant d'Inga pour les ramener très loin au Katanga, il faut les ramener au Kasai pendant qu'il y a alors des ressources au niveau local qui peuvent être
utilisées. Il faut diversifier les formes d'énergie.
Aujourd'hui, on voit sur ce qu'on appelle la diversification des sources d'énergie. On ne peut pas fonder la sécurité énergétique d'un pays aujourd'hui sur une seule source d'énergie. En dehors de l'hydroélectricité, nous devons développer ce qu'on appelle le solaire, nous devons développer l'énergie éolienne, nous devons développer la biomasse, nous devons développer toutes ces formes d'énergie pour que le pays entre sur la voie. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes à Inga, c'est toute la République qui ne marche pas. Et là, qu'est-ce que vous êtes, nous sommes dans quel siècle ça? Ça n'a pas de sens. Alors qu'on peut... On peut terminer les travaux au niveau de la construction du barrage de Katende, les barrages et de Akikwite, là à côté de Akikwite. Tout ça de Kakobola. Tout ça, il faut en finir. Donc, on ne peut pas exactement fonder, être tous alignés sur la ligne Inga. Lorsque quelque chose, une turbine ne marche pas au niveau
c'est
de Inga,
c'est fini,
tout,
bloc,
tout le monde, les hôpitaux, les gens meurent. C'est le chaos au niveau national. Non, ce n'est pas possible. Je crois qu'il faut aller vers la diversification des sources d'énergie, comme vous venez de dire. Ça permettrait au pays d'aller vers un développement. C'est vrai que les groupes électrogènes présentent un danger. Vous avez les dangers des incendies, vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est ça qui permet au moins à la population d'avoir accès.
Donc
à...
on retient que les énergies renouvelables offrent plusieurs avantages.
Exact. J'ai dit, nous avons dit que
plusieurs avantages.
Les énergies renouvelables présentent beaucoup d'avantages sur le plan socio-économique, sur le plan environnemental. Sur le plan socio-économique, ça peut réduire les coûts, même énergétiques. Aujourd'hui, si vous utilisez les groupes électroniques, vous devez chaque fois acheter les carburants. Aujourd'hui, si vous faites les billets,
c'est beaucoup d'argent,
des milliers de dollars.
Oui.
Mais si vous avez installé, par exemple, un panneau, mais les coûts, c'est lié à l'achat du matériel et peut-être à l'entretien. Mais ça
vous allez les garder, il va fonctionner durant 25 ans.
Durant 25 ans. Mmh. Et si on installe et finalement on développe les énergies renouvelables, je vous dis, ça peut entraîner les développements socio-économiques. Il peut y avoir quelques industries qui s'installent dans les villages. Il y a des activités génératives.
Mais j'ai vu depuis quelques temps à Kinshasa, nous avons des lampadaires sur nos routes qui fonctionnent avec les panneaux solaires.
Exact.
Mais c'est une bonne chose.
Bon, je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je ne vois pas dans une ville comme celle de Kinshasa, qui est d'ailleurs connectée à Inga, et qu'on puisse prendre encore des investissements pour développer les solaires dans la ville, pendant qu'il y a des villes, il y a des territoires qui sont complètement oubliés sur le plan de l'électrification. Mmh. Donc, je donnerai le conseil que ce genre d'initiative soit réalisée là où il n'y a rien pratiquement. Et ici, faire asseoir exactement l'hydroélectricité pour que tout le monde puisse avoir accès à l'énergie. C'est la bonne manière de faire, Jody.
Bien. Jean-Dédieu Minengou, expert en environnement, merci.
Merci, Jody, et merci à tous les auditeurs de la Radio Capi.